Bonjour mes frères et sœurs, nous voilà arrivés au 8e chapitre de la lettre aux Hébreux. Et vous vous rendez compte qu'on a étudié tous les vendredis depuis le 20 mars cette lettre aux Hébreux. Et voilà, c'est une longue étude, hein. Mais je pense que... Moi en tout cas je trouve que c'est formidable, ça me parle beaucoup et quand nous parlons dans la communauté aussi, nous apprécions vraiment cette lettre, et j'espère que vous aussi. Alors, on continue donc. Hébreux chapitre 8, versets 1 à 2. Voilà ce que Paul, parce que je crois toujours que c'est Paul qui a écrit cette lettre. Hein. Le point capital, voilà ce qu'il dit, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. Voilà mes frères et sœurs. Là, j'ai lu le troisième verset, mais ces deux versets-là, en fait, les deux premiers versets sont le résumé de ce que Paul a écrit touchant le magnifique sujet de la souveraineté, de la sacrificature, de la prêtrise de Jésus au ciel. Et ce sujet de la prêtrise de Jésus-Christ, Paul commence à en parler, vous vous rappelez peut-être, au chapitre 2. Et ça se poursuit jusqu'ici, du chapitre 2 au chapitre 8. Paul parle de temps à autre de choses, accessoires, comme le repos au chapitre 4, la profession, la confession au chapitre 6. Bref, prenez votre Bible et faites un exercice. Je vais vous demander de faire un exercice aujourd'hui. J'espère que vous avez... un crayon, un papier, puisque c'est une étude, hein, quand on va à l'école, on a du papier et un crayon. Hein. Et voilà ce que je vais vous demander de faire, c'est de lire les deux derniers versets du chapitre 2, le premier verset du chapitre 3, vous ferez ça après, hein, quand j'aurai fini de prêcher, les versets 14 à 16 du chapitre 4, les versets 1 à 5 du chapitre 5, et les derniers versets du chapitre 6 et tout le chapitre 7. Si vous faites ça, vous allez mieux comprendre la somme de ce que Paul dit, c'est-à-dire le point capital de ce que Paul veut exprimer. Il veut faire passer quelque chose d'important. Il ne faut pas passer à côté. Si Dieu a jugé bon que nous ayons cela dans les Saintes Écritures, c'est que c'est important. Cette somme, ce résumé, est le fait glorieux de la souveraineté de Jésus-Christ et de la souveraineté, de la souveraine prêtrise de Jésus-Christ dans les lieux saints, dans le ciel, dans les lieux très saints du ciel. Il est assis là, à la droite du trône de la majesté, c'est-à-dire il est dans la position suprême de la grandeur. C'est ce que tout croyant, tout chrétien né de nouveau croit, puisque la Bible le dit. Tous les écrits qui sont venus avant et tous ceux qui sont venus après et qui contredisent cela, moi je ne peux pas leur accorder foi, ce n'est pas possible. Connaissant Jésus-Christ comme je le connais depuis ce fameux 1er juin 1968, un Dieu merveilleux qui répond à la prière, qui intercède pour nous, qui fait vraiment des miracles, c'est pour moi, c'est indéniable, c'est lui qui est le plus élevé. Et ce lieu très saint, ce vrai tabernacle que le Seigneur lui-même a dressé, il est en contraste avec le tabernacle terrestre dressé au désert. Je vous ai déjà dit ça une fois, il y a quelques années en arrière, le frère et la sœur Alamand de Suisse, de Genève, nous avaient invité, Michou et moi, à passer quelques jours, une quinzaine de jours en Israël. Et on a marché un peu dans le désert, et là, tout à coup, au détour d'une colline, on a vu le tabernacle. Quelqu'un avait construit, enfin c'est une organisation chrétienne qui a construit cela, et tout à fait selon les plans qu'on trouve dans les Saintes Écritures, c'est-à-dire c'était exactement la réplique du tabernacle que Moïse a fait construire au désert. Alors, j'ai appris par la suite que ce tabernacle a fait le tour du monde et que les gens, des chrétiens ont pu le visiter un peu partout, des chrétiens et aussi des juifs, parce que évidemment c'est quelque chose qui les intéresse beaucoup. Mais c'était petit, hein, c'était pas très très grand ce tabernacle. Et il y a un immense contraste entre le tabernacle céleste et le tabernacle terrestre, qui lui, donc, a été dressé selon la loi de Moïse, alors que celui du ciel, c'est Dieu qui l'a construit, c'est Dieu qui l'a fait. Alors, dans ce vrai tabernacle céleste, Jésus officie en notre faveur. Il intercède, il est entre Dieu le Père et nous. Et celui qui s'est, après s'être offert lui-même comme victime pour nous, pour nos péchés, eh bien, il est entré là, et il a été salué par Dieu le Père, comme souverain sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. Pourquoi ? Parce qu'il est ce qu'il est, et il a fait ce qu'il a fait, et personne ne peut prendre ce titre. C'est impossible. Il n'y a que Jésus. Cela introduit une économie nouvelle qui met fin à l'ancienne économie. Non plus, non pas seulement sous le rapport des ordonnances lévitiques, mais surtout de l'alliance qui s'y rattachait. Dieu avait fait une alliance, mais voilà. Cette alliance-là, elle est mise de côté pour faire place à une meilleure alliance, à une nouvelle alliance, à une alliance parfaite. Jésus, le soir où il était livré, il a pris du pain, il a pris du vin, il a dit « Mangez, ceci est mon corps, buvez, ceci est mon sang. » Il dit « Faites ceci en mémoire de moi chaque fois que vous vous réunissez. C'est l'alliance que je fais avec vous, l'alliance en mon sang, c'est-à-dire dans ma vie. » Il fait une alliance sur sa propre vie. Et ça va être le sujet de ce chapitre 8. Alors, qui est-ce que nous allons écouter? Qui est-ce que nous allons croire? Qui va nous impressionner? Qui va nous prouver qu'il a raison de ne pas croire cela? Quelle église va me convaincre qu'elle a raison? Quelle organisation humaine va m'intimider pour que je croie ce qu'elle dit plutôt que ce que les Saintes Écritures enseignent? Il n'y a personne. Personne. Vous savez, je suis de nature très curieuse et j'ai fréquenté tous les milieux chrétiens importants. Hein. Je ne dis pas les petites sectes qui tiennent dans une cabine téléphonique, mais tous les grands mouvements évangéliques et autres qui se réclament de la Bible et qui disent « ils disent tous, nous sommes les meilleurs », eh bien, il n'y a personne qui m'a impressionné par rapport à la Bible. Pourquoi ? Parce que Dieu se révèle. Dieu se révèle. Il se révèle à qui il veut, quand il veut. Le véritable christianisme, c'est une révélation de la part de Dieu. C'est pas un bricolage, c'est pas un échafaudage monté par des hommes ou des femmes, une espèce d'échafaudage branlant. Non, 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 c'est Dieu qui se révèle. Et quand Dieu se révèle, c'est oui et amen. Personne ne peut vous l'expliquer. Même moi, je ne peux pas vous l'expliquer. Je peux vous parler, je peux vous exhorter. Et maintenant, de plus en plus, nous sommes entre nous, entre chrétiens, sur Facebook, je peux vous l'expliquer, et vous comprenez que ce que je vous dis est vrai, puisque je le tire des Écritures, mais ça ne vous prouve rien. Ce qu'il vous faut, c'est la révélation qui vient de Dieu. Tout le monde prétend être dans la vérité, mais Dieu est la vérité. Et il n'a besoin de personne pour trouver une de ses brebis perdues. Il les connaît, il les appelle, il nous appelle par notre nom, et ces brebis reconnaissent sa voix et le suivent, ne suivent pas une religion ou un gourou, un prophète, que sais-je, non. Cependant, il a envoyé sur terre des gens pour enseigner. On appelle, il y a 5 sortes de ministères, et c'est pour édifier le corps de Christ, qui est sur terre. Alors, qui est-ce qu'on doit écouter? Parce que tout le monde dit, voilà, moi j'ai vraiment un ministère. Tous ceux qui prétendent être envoyés de Dieu, sont-ils envoyés de Dieu? Non. Évidemment, non. Il faut les mettre à l'épreuve. Il faut les mettre à l'épreuve. Si une personne vient à vous et ne vous prêche pas ce qui est écrit, ce n'est pas un envoyé de Dieu. S'il rajoute à la parole de Dieu, s'il retranche à la parole de Dieu en disant « Non, ça c'est plus pour notre temps, ça c'était pour autrefois, ça c'est pas bon. » Ne vous laissez pas intimider. Et puis surtout, ne vous laissez pas intimider par ceux qui se disent prophètes et qui organisent par exemple des mariages. Le Seigneur me montre que tu vas te marier avec un tel. Mais ne croyez pas des choses comme ça. Dieu s'amuse pas à des choses comme ça. Je me rappelle toujours quand nous étions autour de la table avec l'équipe de dissidents au château, et puis l'équipe qui était avec moi, nous avions pris le notaire parce que nous étions en train de parler de l'organisation de la vente du château, et tout à coup le prophète des dissidents a dit « C'est Dieu m'a dit que ce château ne se vendrait jamais ». Et le notaire a dit « Ah bon, Dieu vous parle ?» Vous voyez, c'était un homme, c'était un brave catholique, il dit « Ah bon, Dieu vous parle ?» Et oui, et jamais ce château, il m'a dit « Jamais ce château se vendra ». Ben, vous voyez, le château s'est vendu. Alors, il faut mettre à l'épreuve les gens qui se disent envoyés de Dieu. On les reconnaît, en fait, à leurs fruits, c'est-à-dire aux résultats. Hein. Ne vous laissez pas intimider. C'est Dieu qui attire les siens à lui, et les siens le reconnaissent. Les siens reconnaissent sa voix. Et ils ne vont pas suivre un étranger, un imposteur, un raconteur de fables, un beau parleur, ou un idiot, ou que sais-je. Non. Les brebis de Dieu suivent Dieu. Et ceux qui suivent Dieu suivent le vrai Dieu, c'est-à-dire le Dieu d'amour, le Dieu de paix, le Dieu de bonté, le Dieu exigeant aussi. Le Dieu qui finira aussi par punir ceux qui ne veulent absolument pas le suivre ou qui sont révoltés contre lui, qui ne veulent pas de lui. Il va pas les prendre dans son paradis. Dans son paradis sera un enfer à ce moment-là. Il est juste, mais il est avant tout amour. Et ce qu'il nous ordonne, c'est d'aimer. C'est pas d'aller massacrer en son nom comme l'ont fait les religions chrétiennes, entre guillemets, autrefois et d'autres aujourd'hui. S'il y a eu et s'il y a encore aujourd'hui des faux ouins, on reconnaît ce qu'ils sont en regardant ce qu'ils font. Voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Alors que le seul vrai Dieu vous garde, vous protège, vous guide dans la paix. Invoquez-le au nom du Seigneur Jésus-Christ et il vous répondra. Il a dit qu'il répond à ceux qui l'invoquent, mais on ne l'invoque pas n'importe comment. Si vous dites « Oh, Sainte Vierge, montre-moi », non, il ne vous montrera pas, il ne vous répondra pas, ou alors la réponse que vous observerez ne viendra pas de lui, parce qu'il y a aussi tout un monde d'esprit. Il y a une façon de faire. On ne se présente pas à Dieu n'importe comment, on se présente à Dieu comme il veut qu'on se présente à lui. Il y a un protocole, et c'est « On doit venir devant lui » au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est notre seul intercesseur, c'est-à-dire qui est le seul entre Dieu et nous. Donc nous venons au nom du Seigneur Jésus-Christ, et si vous avez quelques problèmes, quelques doutes, si vous avez un peu de confusion dans votre cœur, demandez à Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ, et il vous éclairera, il le fera, il le fera, et s'il ne le fait pas, c'est plus votre responsabilité, c'est la sienne. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il faut que vous le fassiez avec une bonne intention. Parce que si vous le faites avec l'intention de tout tourner en bourrique et de vous moquer, Dieu ne vous répondra pas parce qu'il sonde les cœurs, il regarde ce qu'il y a dans votre cœur. Et si vous faites semblant de chercher ou si vous cherchez pour détruire, il ne vous montrera rien du tout. Voilà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide. On va suivre vendredi prochain, si Dieu nous donne vie. On va continuer dans cet épître des Hébreux, et cela jusqu'à la fin. Et puis écrivez-moi, dites-moi, une fois qu'on aura fini les Hébreux, dites-moi qu'est-ce que vous voudriez qu'on étudie dans la Bible, qu'est-ce qui vous intéresse le plus, qu'est-ce que vous voudriez qu'on lise, par exemple, qu'on étudie comme livre dans la Bible. Moi, j'aime beaucoup la lettre aux Romains, par exemple. Enfin, demandez, et puis on verra ce qu'on va faire. On va aussi organiser certainement en 2021, si Dieu le permet, un séminaire. J'ai trouvé un endroit magnifique là dans la région et on pourra recevoir du monde et puis faire un séminaire, passer 2-3 jours ensemble, manger ensemble et parler ensemble, apprendre à se connaître et puis à étudier la parole de Dieu, à prier, à chanter et à louer Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse, bonne fin de semaine, et quoi qu'il arrive, mes frères et sœurs, ne rouspétez pas, ne râlez pas, soyez tranquilles, Dieu tient toutes choses dans ses mains. Au revoir, à bientôt.